Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ton visage? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'attaquera-t-il à moi? Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu, donne la lumière à mes yeux, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. En effet, mon ennemi pourrait dire, je l'ai vaincu, et mes adversaires se réjouirent en me voyant ébranlé. Mais moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de la joie dans le cœur à cause de ton salut. Je veux chanter en l'honneur de l'Éternel, car il m'a fait du bien. Jusqu'à quand ce cri de douleur, ce cri d'incompréhension, quelle sera notre attitude quand nous y ferons face également? Et peut-être que vous y faites déjà face aujourd'hui. Merci. Jusqu'à quand? C'est très certainement la question que se posent encore aujourd'hui les habitants du Pas-de-Calais. Alors que jour après jour, nuit après nuit, ils voyaient l'eau s'infiltrer dans leurs maisons, gagner centimètre sur centimètre et détruire ce qu'ils avaient mis des années à bâtir. Jusqu'à quand le ciel resterait-il fermé? Jusqu'à quand la pluie continuerait-elle de tomber? Jusqu'à quand serais-je obligé de dormir dans la maison de la salle des fêtes de mon village? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? C'est très certainement la question que doivent également se poser les habitants de la bande de Gaza aujourd'hui, ceux d'Israël et de la Cisjordanie et ceux de la frontière du Liban. Jusqu'à quand les bombes vont continuer à tomber? Jusqu'à quand le chiffre des morts continuera-t-il d'augmenter? Jusqu'à quand mes enfants resteront sur le front à jouer et à danser avec la mort? Jusqu'à quand? Ce jusqu'à quand, c'est une question universelle. Elle frappe les habitants du Nord-Pas-de-Calais, elle frappe les habitants d'Israël et de la bande de Gaza. Et dans le Pas-de-Calais, la souffrance touche autant les athées que les religieux, autant les agnostiques que les bouddhistes, les musulmans que les chrétiens. La souffrance ne fait pas de discrimination. La souffrance est partout et elle touche tout le monde, y compris les chrétiens. À Gaza, les enfants chrétiens doivent également aller sur le front. Quel est ton jusqu'à quand? Nous avons tous eu, ou avons aujourd'hui, ou aurons demain, nous jusqu'à quand? Quel est ton jusqu'à quand? Si demain c'est la pluie qui inonde ton salon, celui où tu étais ce matin, et que tu vois l'eau monter. Si demain, c'est sur la maison de ton voisin que tu vois une bombe s'écraser. Ou si demain, l'un d'entre nous, l'un de nos anciens impliqués dans l'église, s'effondrait suite à une crise cardiaque après avoir commencé une randonnée, comme cela s'est passé pour une autre église de la région parisienne il y a 3 semaines, quelle serait notre réaction? Et si demain la persécution s'abattait sur la France, si demain les chrétiens étaient appelés ennemis de la République, contraires à la laïcité, à l'acceptation, et étaient arrêtés, condamnés et emprisonnés, si demain la personne qui était assise à côté de toi, maintenant, était arrêtée, quelle serait ta réaction? De nombreux chrétiens aujourd'hui sont persécutés dans le monde. Ce sont ceux qui ne sont pas là, les 7 qui étaient au fond, et j'en fais partie. Ce sont ceux qui ont laissé ces chaises vides. 360 millions de chrétiens qui sont dans ces jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Éternel? Ils s'appellent Traoré, Ayuba, Marie, Awel, et nous allons écouter leurs histoires. Et pourtant, beaucoup de ces chrétiens persécutés le disent, Ils l'attestent à porte ouverte. Ils ont ressenti une joie profonde simplement par la présence de Jésus à leur côté, alors même qu'ils traversaient l'ombre de la mort, alors même qu'ils traversaient des souffrances physiques et émotionnelles. La joie ! Comment est-ce possible ? Comme David, il pouvait dire, « Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de la joie dans le cœur à cause de ton salut. Je veux chanter en l'honneur de l'Éternel, car il m'a fait du bien. » Quelle sera notre réaction ? Et j'aimerais se poser la question. La situation géopolitique du monde change, et demain, peut-être que notre Église sera persécutée. Quelle sera ta réaction ? Aujourd'hui, dans ce psaume, nous voyons l'exemple de David, ainsi que de ses persécutés que nous allons voir aujourd'hui. Et nous découvrons un secret. Nous découvrons que dans la souffrance, ils ont pu avoir la joie du salut. Quand on jusqu'à quand viendra demain, quelle sera ta réaction ? Malgré le chômage, la maladie, la catastrophe naturelle, quelle sera ton jusqu'à quand ? Et je vous mets au défi. Est-ce que l'un de vous, ce matin, peut dire « je ne veux pas savoir ». Cela ne m'intéresse pas. Si je vous dis qu'il y a un moyen, peut-être, de trouver la joie malgré les circonstances, que peu importe les circonstances, nous pouvons trouver la joie, qui d'entre vous me dira « je ne suis pas intéressé » ? J'aimerais vraiment vous aider aujourd'hui au travers de ce texte et des exemples de chrétiens persécutés. Vous montrer des étapes que l'on voit dans ce texte pour y arriver. Trouver la joie dans les souffrances, de l'amertume à la joie. Et on va lire ce texte. Et ce texte est divisé en trois parties. Et nous voyons trois étapes. Trois étapes pour réussir à passer de l'amertume à la joie. Première étape, s'ouvrir à Dieu. Deuxième étape, demander à Dieu. Et troisième étape, regarder à Dieu. Et on va les voir les uns à la suite des autres. Première étape, s'ouvrir à Dieu. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse ? Jusqu'à quand me cacheras-tu ton visage ? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur ? Jusqu'à quand mon ennemi s'attaquera-t-il à moi ? David ouvre son cœur à Dieu. Il ne cache pas ses sentiments. Il ne les tient pas enfermés. Il les dit. Il a l'impression d'être oublié par Dieu. Il le dit. Jusqu'à quand oublieras-tu ? Il a l'impression d'être abandonné. Jusqu'à quand ? Il est chaque jour en souci, chaque jour dans le chagrin. Jusqu'à quand ? Il ne comprend pas pourquoi. Il ne comprend pas pourquoi Dieu n'empêche pas ses ennemis de s'attaquer à lui. Pourquoi Dieu n'empêche pas les malheurs de tomber sur nos têtes, jour après jour, jusqu'à quand ? Il ouvre pleinement son cœur devant Dieu. Et la tentation de se taire serait grande. Dans la souffrance, il est si facile de se sentir loin de Dieu, abandonné de Dieu, de se sentir trahi, et de dire, Dieu m'a abandonné, je n'ai plus rien à voir avec lui, je ne veux même pas m'adresser à lui désormais, de rester silencieux et de ne pas s'ouvrir à lui. C'est exactement ce qui est en train d'arriver à un jeune de ma famille que je connais, qui est atteint d'épilepsie, et il ne comprend pas parce qu'il n'a plus d'espoir. Il a fait tellement de crises que ses épaules se sont disloquées à multiples reprises, elles sont foutues. Il ne peut plus travailler, il y a l'angoisse de la crise qui est là, et il est en colère contre Dieu. Il refuse de s'ouvrir à Dieu. C'est le danger qui nous guette quand on fait face à la souffrance. Traoré, un jeune du Burkina Faso, ne cache pas ce sentiment. Traoré a vu son père se faire assassiner sous ses yeux par des soldats peuls. Et voilà ce qu'il affirmait. J'ai parfois l'impression que Dieu m'a abandonné. J'ai parfois l'impression que Dieu m'a abandonné. L'absence de Dieu, plus d'espoir. Et si tu ne dis rien, si tu gardes ça pour toi, si tu ne t'ouvres pas, l'amertume, la colère et l'incompréhension vont rester enfermés en toi, un peu comme une poubelle pleine. Parfois, il arrive que je doive descendre les poubelles chez moi, et au moment d'ouvrir la poubelle, l'odeur de macération commence à me piquer le nez. Ça, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Ça veut dire que ce qu'il y avait dedans, certainement des déchets très organiques, était là depuis un bout de temps et macéré. Et si on ne dit rien, c'est un peu comme si on mettait toutes nos émotions négatives, haine, amertume, colère, dans un endroit clos, totalement hermétique et fermé, et que les choses commençaient à macérer. Et alors non seulement on est en train de souffrir de l'extérieur, mais à l'intérieur aussi, nos émotions nous font souffrir. Alors comme David, exprime tes émotions. Dis à Dieu, t'es jusqu'à quand ? Toi aussi, parle à Dieu. Et Traoré s'est rendu compte plus tard, comme on le voit sur la fin de cette citation, que Dieu, même s'il ne l'avait pas l'impression, était encore là. Il avait l'impression que Dieu l'avait abandonné. J'ai parfois l'impression que Dieu m'a abandonné. Mais quand je lis la Bible, je me rends compte qu'il est avec moi depuis le début. Je pensais que Dieu ne se souciait plus de moi. Mais il m'a soutenu durant ma souffrance. Alors même si les ténèbres de nos souffrances nous environnent, même si l'on ne voit plus rien, même si on a l'impression d'être dans la nuit la plus noire, ne taisons pas nos émotions, mais parlons à Dieu, ouvrons nos cœurs à Dieu, comme David dans ses premiers versets. Exprimons-lui nos jusqu'à quand. Et c'est la première chose, ouvrir notre cœur à Dieu. Si ce matin tu es dans la souffrance, ne te tais pas, ne tourne pas ton nez devant Dieu, parle-lui. Et ce qui va suivre, et ce qui est nécessaire, est presque automatique. Quand on commence à se plaindre à Dieu, à ouvrir notre cœur à Dieu, très vite, les requêtes, les demandes vont arriver. Et c'est ce qui se passe pour David, tu peux mettre la diapo suivante. Très vite, il commence à faire une demande à Dieu. « Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné ? S'il te plaît, viens !» Presque automatiquement, on commence à demander à Dieu, et un Dieu qui aime répondre à nos prières. Alors première chose, ouvre-toi à Dieu, et deuxième chose, prie, demande. Lisons. Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Donne la lumière à mes yeux, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. En effet, mon ennemi pourrait dire, je l'ai vaincu. Et mes adversaires se réjouirent en me voyant ébranlé. Nous voyons dans ce verset trois éléments, trois choses. Une situation, une prière et un fondement pour la prière. La situation, la nuit la plus sombre et du désespoir. Quand nous sommes embourbés dans cette souffrance terrible, telle qu'on a pu la décrire, peut-être cette souffrance qui viendra demain ou qui vous caractérise aujourd'hui, c'est comme si tout devenait noir autour de vous. Est-ce que vous vous êtes déjà réveillé la nuit avec une insomnie, et tout est totalement noir autour de vous, vous ne voyez plus rien. Et c'est une insomnie, vous ne pouvez pas vous endormir. Et les heures passent, les minutes passent, les heures passent. C'est comme s'il n'y avait aucun espoir. Le noir vous enveloppe. Et parfois, dans notre souffrance, c'est comme ça. Parfois, on a aussi l'impression d'être entouré par les ténèbres, sans échappatoire. Et nous avons peur, comme David le dit, de sombrer dans le sommeil de la mort. Il fait nuit dehors et il fait nuit à l'intérieur. Et la mort qui nous guette est autant physique, due à la souffrance, que mentale. Nous avons besoin d'une aide extérieure, Nous avons besoin qu'une lumière jaillisse. Et il y a un mensonge. Le mensonge serait de dire « je peux résoudre mes difficultés tout seul ». Mais alors que David élève sa prière, nous voyons qu'il a réalisé une chose. Seul Dieu peut l'aider. Pour Ayouba, la solution était simple aussi. Il voulait trouver la solution tout seul. Tu peux remettre en arrière, on lira après. Pour aller mieux, il lui fallait se venger et tuer les personnes responsables de la mort de son père. En 2020, Boko Haram a attaqué le village d'Ayouba, dans le nord du Nigeria. Et si Ayouba réussit à s'enfuir avec ses frères et ses sœurs, quand il est revenu au village, il a vu 3 corps, dont celui de son père. Il raconte ce qui s'est passé. Ils ont attrapé notre père, l'ont emmené à l'extérieur et ils l'ont mis à genoux. Je me suis agenouillé, pardon, ils l'ont mis à genoux. Ils lui ont demandé de lire le passage du Coran pour vérifier s'il était musulman. Mais son père n'a pas caché qu'il était chrétien. Il l'a affirmé. Sur le champ, ils l'ont décapité. Lorsqu'Ayouba est retourné au village, il a vu 3 corps. Et il a reconnu le corps de son père aux vêtements qu'il portait. Voilà ce qu'il dit. « Je me suis agenouillé à ses côtés et j'ai prié. Dieu, je suis reconnaissant. Tu as donné et tu as repris. Que mon père repose avec toi. » Ces paroles font écho à la prière de Job dans Job 1, 21. « L'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit loué. » Mais Ayouba a décidé de se venger. Il a même commencé à porter un couteau lorsqu'il a appris qu'un des hommes du village qui avait dénoncé son père était encore là et il était déterminé à tuer cet homme. Cependant, il a réalisé plus tard que chercher à se venger lui-même ne menait à rien. Avec sa famille, il a finalement déménagé plus au sud, à environ 8 heures de route du village, et un pasteur leur a recommandé d'aller au centre de Porte Ouverte pour y recevoir des soins post-traumatiques. Et l'aide qu'il a reçue l'a transformé, a transformé Ayouba. Lorsqu'on lui demande quelle est la leçon la plus importante qu'il a apprise, il répond « le pardon ». Avant, Ayouba était déterminé à venger la mort de son père. Mais au centre, il a déposé le couteau qui représentait sa rage et sa haine. Aujourd'hui, il n'a plus aucun problème avec l'homme qui a dénoncé son père. Voici ce qu'il dit. « Si nous nous rencontrons, nous nous saluerons. J'ai réalisé que je ne gagnerai rien à me promener avec un couteau pour me venger, puisque je serai toujours blessé et que je n'aurai jamais l'esprit tranquille. J'ai donc décidé de laisser tomber ma colère et d'être en paix. Dieu m'a amené ici pour me guérir. » Et comme David, comme Ayouba, nous avons besoin de cette nouvelle lumière qui nous donne de porter un regard nouveau sur la situation. Un regard nouveau sur la situation. Et c'est ce que demande David. Illumine, illumine mes yeux, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que ces ténèbres ne m'enfouissent pas, et qu'ils ne sombrent pas dans les ténèbres. Une autre personne, Marie, avait toutes les raisons de sombrer dans le sommeil de la mort et de la dépression. Les multiples traumatismes qu'elle a subis sont ceux qu'à vie humaine nous brise définitivement. Marie a subi des violences physiques et émotionnelles graves. Elle avait 20 ans lorsque les militants Peul ont attaqué l'église dans laquelle elle se trouvait. Ils l'ont retenue captive pendant 54 jours. Durant lesquelles elle a subi des violences sexuelles répétées. Elle a été forcée de cuisiner pour ses agresseurs, alors qu'elle-même ne pouvait manger que la nourriture des animaux. Mais plusieurs fois, Marie a vu la main de Dieu à l'œuvre, Il a puissamment agi pour elle et les autres femmes détenues à ses côtés. Elle raconte, « Un homme avait une arme et était prêt à nous abattre toutes », se souvient-elle. « Je n'arrêtais pas de prier dans ma tête. Et pour une raison inconnue, l'homme est parti et nous a laissés seuls. Je sais que Dieu est intervenu. » Un jour, l'un des Paul est venu s'asseoir à côté de Marie. Elle s'est sentie obligée de lui demander s'il réalisait le mal qu'il faisait. Il a répondu que tous savaient que ce qu'il faisait était mal, mais qu'il ne pouvait pas arrêter. Je lui ai dit qu'il y avait bien un moyen d'arrêter. Si vous donnez votre vie à Jésus, il vous pardonnera et vous pouvez arrêter toutes ces choses que vous faites. Le courage de Marie est étonnant. Elle a partagé l'évangile avec deux autres de ses ravisseurs. Quel changement de perspective, malgré la souffrance. Même face à un danger extrême, elle voulait annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Malheureusement, il n'était pas du tout réceptif. Mais Marie est restée fidèle dans la prière, jour après jour. « J'ai continué à prier dans mon cœur, dit-elle, pour que Dieu nous sauve de cet endroit, car personne d'autre ne peut nous sauver. Seule sa puissance et sa grâce peuvent nous sortir de là. » Les prières de Marie ont été exaucées. Elle dit, « Dieu l'a vraiment fait. Je remercie Dieu qui m'a sauvée et m'a ramenée à la maison. J'aime vraiment Dieu. Toutes les femmes ont été libérées. » Alléluia. Porte ouverte nous indique que la douleur du traumatisme vécu n'a jamais réellement quitté Marie. Ce qui ne l'a pas empêché de louer le Seigneur pour qui il est, pour ce qu'il a fait et pour la paix intérieure qu'il lui a apportée. Nous voyons donc une situation, les ténèbres les plus noires que l'on puisse imaginer. Une prière ouvre mes yeux afin que dans cette noirceur, je puisse voir la lumière, je puisse voir un espoir et que je ne désespère pas, que je ne meure pas. Et on voit dans ces versets également, si tu peux remettre les versets, un fondement. Un appel à l'aide, regarderai pour moi, donne-moi la lumière pour que j'ai une nouvelle vision. Et un fondement. En effet, nous voyons dans ce mot « en effet » comment David peut faire cette prière. Mon ennemi pourrait dire « j'ai vaincu » et mes adversaires se réjouir en me voyant ébranlé. Le centre de cette prière, le fondement de cette prière, c'est surprenant. Il ne dit pas « libère-moi ». En effet, j'ai peur de mourir. En effet, j'ai peur de disparaître. Il dit « en effet ». Il pourrait dire cela de moi. Il pourrait se rire de moi. Il pourrait se réjouir en me voyant. Il pourrait proclamer « j'ai vaincu ». Il pourrait être faire les fiers. Le fondement de David ici n'est pas « je veux absolument échapper à la mort », même si c'est là aussi, mais le fondement, je ne veux pas que ma réputation soit entachée. Et avec elle, la réputation de l'Éternel. Si je suis terrassé, que diront-ils ? Son Dieu ne l'a pas sauvé ? Son Dieu ne pouvait pas le sauver. David se soucie de ce que les ennemis pourraient dire. Et nous voyons ici un indice. David est principalement inquiété de ce que les gens pourraient dire de Dieu. Le centre, le fondement de cette prière, de cette requête, c'est Dieu et ce n'est pas David. Et cela, nous le retrouvons partout. À cause de ton nom, combien de prières sont faites ? À cause de ton nom, fais cela. À cause de ta gloire, fais cela. Et notre prière de chaque jour, notre Père, tout ce que nous pouvons demander se fait sous ces trois prières principales. Que ton nom soit sanctifié, que ton volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ton règne vienne. Tout ce que nous pouvons demander dépend de ces trois prières. Alors, dans la souffrance, David et les persécutés nous apprennent. Ouvre ton cœur à Dieu, épanche ton cœur devant Dieu. Prie, deuxième chose, et troisième chose, regarde à Dieu. David demandait la lumière et Dieu a répondu à sa lumière. Quel changement incroyable! Alors qu'il est dans la souffrance la plus grande, voilà ce qu'il dit. « Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de la joie dans le cœur à cause de ton salut. Je veux chanter en l'honneur de l'Éternel, car il m'a fait du bien. » Dieu a répondu à sa prière. Il lui a donné un nouveau regard. Et il est très fort peu probable qu'il ne soit plus dans la souffrance à ce moment-là. Il est très fort. Il n'a certainement pas posé son psaume. Il s'est arrêté au verset 5. Il est revenu quelques années plus tard, quand tout s'est arrangé, pour écrire la fin du psaume. Ce qui se passe ici, c'est très certainement, alors qu'il était dans la souffrance, alors qu'il était dans la douleur, alors qu'il était dans son jusqu'à quand, Dieu est venu et lui a donné la joie du salut. Il a répondu à sa prière, illumine les yeux de mon cœur. Et voici ce qu'il a vu. Trois choses de Dieu qui ont changé ses émotions. La bonté de Dieu. J'ai confiance en ta bonté. La bonté de Dieu lui a donné la confiance en Dieu. Là, le salut de Dieu lui a donné la joie. Et les bienfaits passés de Dieu, tout ce que Dieu lui a fait dans sa vie, lui a donné l'envie de louer, la reconnaissance. Trois choses qui ont changé totalement le point de vue dans la souffrance. Et là, vous allez me dire, mais comment est-ce possible ? Quand je lutte avec un cancer ou quand une inondation ou un bombardement, comment est-ce que dans ces souffrances terribles et le fait de voir Dieu peut changer la donne ? Ça a l'air tellement surnaturel, ça a l'air tellement incroyable. Comment est-ce possible ? Et cela vient d'une raison simple. La joie de David ne provient pas en premier lieu de ce que Dieu lui donne, que ce soit le travail, la royauté, la sécurité, l'argent, la famille. La joie de David vient en premier lieu de pouvoir être avec Dieu. La joie de David ne provient pas des cadeaux de Dieu, mais de Dieu lui-même. Beaucoup de chrétiens vivent ce mystère, la joie dans la souffrance la plus incroyable. Et je vais vous raconter un dernier témoignage, le témoignage d'Awel. On va mettre à la citation à la fin. Awel est éthiopien, il a passé 15 ans en prison, 15 longues années en prison. Mais malgré toutes ces années et les souffrances endurées, il n'a jamais connu la dépression. Pas une seule seconde, dit-il. Il supportait avec joie son emprisonnement, car il désirait montrer qu'il était un témoin vivant de Jésus-Christ. Une fois sorti de prison, par contre, il se trouvait totalement réorienté. Sa femme et ses enfants avaient refait leur vie sans lui. Et il a commencé à se demander, à quoi bon ces 15 ans passés en prison ? À quoi bon toutes ces années gaspillées ? Il était déçu, il doutait de ses capacités. Et il s'est mis à douter que Dieu était bon. Il dit qu'il est entré dans la plaine de l'amertume, au bord de l'étang de la déception. Mais pour sortir de cet état, il a fallu qu'il comprenne ce mystère. Que le cadeau, ce n'est pas ce que Dieu peut nous donner, mais c'est Dieu lui-même. Il a compris le vrai sens de son existence, celui rappelé dans Matthieu 22. Le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu par-dessus tout. Et c'est ça le sens et le but de nos vies. Pas aimer ce que Dieu nous donne, mais aimer le Dieu. Et grâce à cette réalisation, Awel a réussi à accepter les frustrations de ses 15 années passées en prison. Et cette traversée de l'ombre de la vallée de l'ombre de la mort a pu terminer. Il a pu recommencer à vivre pour Dieu. Alors nous avons vu trois étapes. Et je vais conclure. Si demain, la persécution arrive ici, quelle sera ta réaction ? Que feras-tu ? Seras-tu dans la joie malgré la persécution ? Si demain, ton époux, ton épouse, ton enfant est arrêté, ou si une quelconque autre souffrance t'atteignait, ouvrir son cœur, prier et regarder à Dieu. Voici l'image, la dernière image avec laquelle j'aimerais vous laisser. Non, on va arriver à la conclusion, merci. Tu peux mettre la conclusion, ouais, merci. Regarder à Dieu, c'est regarder à Christ. Oui, nous pouvons trouver la paix dans nos souffrances. Oui, nous pouvons quitter l'amertume de nos jusqu'à quand pour la joie. Oui, nous pouvons louer Dieu, peu importe les circonstances. Dieu est celui qui envoie la lumière au sein des ténèbres. C'est lui qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. Alors qu'aujourd'hui, demain, nous sommes cernés par les ténèbres, entourés par la nuit la plus noire, que nous menacions de sombrer dans le désespoir provoqué par les souffrances, les péchés de notre monde. Dieu a envoyé les ténèbres, la lumière pour percer les ténèbres. Il a donné la lumière au monde. Quant à nous, il nous a donné la lumière aussi. Et nous pouvons avoir un regard totalement nouveau, lumineux sur nos situations. Voici ce qu'il est dit en Luc 1, versets 76 à 79, pour parler du ministère de Jean-Baptiste qui annonce Jésus, notre lumière dans les ténèbres. Tu marcheras sous le regard du Seigneur pour préparer ses chemins et pour donner à son peuple la connaissance du salut, par le pardon de ses péchés, à cause de la profonde bonté de notre Dieu. Grâce à elle, à cette bonté, le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont ainsi dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. Quand nous sommes engloutis par les ténèbres au cœur de la nuit et que nous ne voyons rien d'autre que la noirceur, nous savons, car nous avons vu et nous verrons encore la lumière se lever. Le jour va arriver, aussi certainement qu'il se lève jour après jour. Ouvrons notre cœur à Dieu, prions et regardons au Seigneur. La lumière s'est levée dans nos cœurs. Jésus est venu et Jésus va revenir comme son salut. Jésus a dit, celui qui a vu le Père, celui qui m'a vu a vu le Père. Voir Jésus, c'est voir Dieu. Voir Jésus, c'est voir la bonté de Dieu. Voir Jésus, c'est voir le salut de Dieu. Voir Jésus, c'est voir les bienfaits de Dieu envers nous. Je termine sur trois phrases. Si nous souffrons aujourd'hui, nous pouvons faire ces trois étapes. Nous ouvrir, prier et regarder à Dieu. Si demain la souffrance t'attaque, souviens-toi de ces trois étapes. Ouvre ton cœur, prie et regarde à Jésus. Et alors qu'aujourd'hui nos frères et nos sœurs souffrent, prions pour eux. Prions pour eux pour qu'eux aussi puissent ouvrir leur cœur, pour qu'eux aussi puissent prier. Et pour qu'eux aussi puissent voir Jésus dans leur souffrance, la lumière de Jésus dans la noirceur de leur souffrance. Voici les trois choses avec lesquelles j'aimerais vous laisser. Et je vais prier avant de laisser la suite. Seigneur, tu vois tes enfants qui souffrent terriblement aujourd'hui. Et tu vois la souffrance qui touche tout le monde et qui pourra nous toucher demain, d'une manière ou d'une autre. Mes frères et sœurs ici aussi. Seigneur, tu connais les lacunes de ma présentation. Seigneur, mais toi, je prie que tu puisses envoyer ta lumière. Je prie, Seigneur Jésus, que tu puisses placer dans le cœur de mes frères et sœurs maintenant cette vérité. Nous ouvrir, prier et voir dans la lumière. Ouvrir nos yeux sur qui est Dieu, afin que cette joie puisse rayonner au plus profond de la nuit, malgré toutes nos souffrances. Merci, Père, de laisser cela dans le cœur de mes frères et sœurs. Merci, Père, de poser ça dans le cœur de mes frères et sœurs qui souffrent maintenant. Seigneur, viens-nous en aide. Amen.